Les controverses du village, épisode 15. Je suis en compagnie donc de Romain Nigita de Beat Art City et de Astiera.
Oui, c'est ça, Astiera.
En plein cœur de la Comic Con Paris pour l'édition 2012.
Eh ben bonjour.
Bonjour donc, à tous.
Bonjour. Et nous allons revenir avec vous en fait sur la journée de jeudi. Alors, les deux grands événements de la journée en fait, c'était l'événement Star Trek avec la diffusion de The Captains, un documentaire de avec écrit joué
par William Shatner,
par William
omniprésent
Shatner, dans tous les plans.
Exactement.
Suivi d'un débat sur lequel on reviendra aussi sur Star Trek. Et l'autre événement de la journée, le gros événement de la journée, c'était la présence d'Alexandre Astier pour une masterclass très orientée Kaamelott. Donc déjà, je vais vous demander comment vous avez ressenti la journée. Alors, on va commencer par Astiera. Alors, je crois que tu n'as pas vu les événements Star Trek, mais je pense que vu ton nom sur Twitter, tu es allé à la masterclass Astier. Ou alors, tu es allé voir les Tortues Ninja, je ne sais pas.
J'aimais beaucoup les Tortues Ninja enfant, mais j'avoue que j'ai fait l'impasse chez moi et demi. Alors, effectivement, je suis venue exclusivement hier pour voir Alexandre Astier en masterclass parce que ça ne se manque pas. Il a été fidèle à ce qu'il est, c'est-à-dire passionnant, intéressant. Il a fait le show. J'ai été ravie.
Tu n'es pas amoureuse du tout d'Alexandre Astier?
Non, juste un tout petit peu. Mais bon, je crois que je ne suis pas la seule. Voilà.
Moi, il y a un truc qui m'a, que j'ai trouvé assez flagrant dans la masterclass. Au-delà de sa prestance habituelle d'homme de scène, on va dire. C'est en fait la façon dont il a balancé des infos assez, assez importantes et même à un stade où généralement dans le milieu de l'audiovisuel on ne dit rien, on se tait. Moi j'ai l'impression qu'Alexandre Astier il n'a pas de filtre vis-à-vis de ça, et s'il dit qu'il est en négociation, en discussion avec M6 pour Kaamelott Resistance, il y est, mais techniquement il devrait pas le dire, ça peut peut-être créer des problèmes, mais il a une telle posture à l'heure actuelle dans la fiction française qu'il peut se le permettre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi, juste pour préciser, j'avais une position un peu particulière par rapport à cette masterclass, puisque j'étais l'un des deux ozos sur scène qui posait des questions à Alexandre. Donc voilà, non, mais ce qui était prévu de toute façon avec Alexandre, c'était que cette masterclass, il y avait évidemment le côté expliquer toutes les facettes de son travail, c'était évidemment la base, mais c'était aussi parce que ces Comic-Con balançaient des exclus. Alors évidemment, comme maintenant tout le monde le sait, il a présenté des dessins de production, des esquisses de travail pour le projet Résistance, pour lequel il est rentré dans le détail, et en effet, il a annoncé où est-ce qu'il en était en termes de développement avec la chaîne, éventuellement M6, s'il y a une version audiovisuelle. Parce que donc, ce qu'il a précisé, c'est que lui, il voulait faire Résistance, qui est quelque chose qui mène à la trilogie de films, mais que, pour l'instant, ça serait à 99% une série de nouvelles, donc sous forme de prose, et qu'il aimerait bien en faire une version audiovisuelle, qui sera une version un peu ramassée de ces nouvelles-là, mais qu'en effet, pour l'instant, rien n'était fait. Je pense que pour lui, c'était important justement d'avoir cette puissance de son public derrière lui pour démontrer que justement, il y a un public qui espère toujours du Kaamelott, qui veut quelque chose de frais là-dessus. Et je pense que c'est justement l'intérêt de conventions dans ce genre-là, depuis des dizaines d'années même aux États-Unis, et ça commence à être en France, c'est que ça devient un peu un levier pour montrer qu'il y a un public qui existe, qu'il y a un engouement qui existe. Typiquement avec HeroCorp, c'était le cas, de montrer que malgré le fait qu'il y ait eu des saisons et que ça soit arrêté, si aujourd'hui on continue à en parler et qu'il y a encore des discussions, c'est aussi parce que Comic-Con a permis de montrer ça. Et je pense que c'est exactement ça avec Alexandre. Il a voulu un peu montrer qu'il y avait toujours un intérêt pour ce projet-là. D'accord. Et donc il l'a pas fait, je pense qu'il l'a pas fait innocemment.
Ouais.
Il l'a pas balancé au hasard. Il n'y a pas uniquement le fait qu'il a moins de filtres que les autres. Il y a aussi clairement volontairement d'impliquer le public là-dedans.
D'accord. Et vous pensez pas que ça peut braquer la chaîne, par exemple ? Parce que c'est pas une attitude... Enfin, moi, limite, je trouve ça plutôt bien, mais c'est pas une attitude très française, justement, de confronter et de dire, voyez, ça peut marcher, j'en ai parlé, et il y a une émulation autour de ça. Vous pensez pas que la chaîne peut se braquer vis-à-vis de ça ?
Alexandre Astier, c'est un peu un ovni, quand même, de l'audiovisuel. Quoi. Il se dit lui-même qu'on le surnomme le pirate de l'audiovisuel français, c'est-à-dire qu'il impose vraiment ses choix pour Kaamelott, que ce soit en termes de format, de narration, etc. Il y va au forceps et il impose. Il se trouve que c'est suivi par le public, donc il peut l'imposer, finalement, on lui donne la possibilité. Mais c'est vrai qu'il est un électron libre. Comme il le dit, vu qu'il chapeaute tout, il devient incontournable et le projet ne peut pas se faire sans lui. Donc, il y va. Moi, ce que j'ai trouvé super touchant, en fait, c'est qu'il a donné aussi beaucoup d'infos sur deux clans, sur le contenu, en fait, de Kaamelott Resistance. Il l'a fait avec beaucoup de spontanéité et de joie. Et comme il expliquait, les BD avant, c'était la seule chose qui le rattachait encore à Kaamelott. Et j'ai l'impression que là, de revenir avec un nouveau projet Kaamelott, ça lui fait énormément plaisir. Et du coup, il avait envie de partager aussi, au-delà du fait un peu calculateur, de dire voilà, j'ai du public derrière. Il voulait aussi faire un peu un cadeau, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti.
Surtout que par rapport à la BD, c'est un peu parallèle à la série, c'est un bonus, on va dire, hein, sans vouloir être méchant. La Résistance, c'est quand même le truc qui va faire le pont entre la saison 6 et les films. C'est quand même totalement indispensable pour comprendre les films tels qu'ils envisagent. Donc on est quand même là, loin d'un simple bonus. Pour lui, c'est un truc très important. On le voit à travers tout ce à quoi il a réfléchi, genre, tous les blasons, tout l'univers de cette période-là. Il a complètement l'univers en tête et tous ses développements. C'est assez fascinant, quand on discute avec lui en interview de ça, il connaît par cœur tous les tenants et les aboutissants de son univers. Et c'est ça qui est assez fascinant, de voir que, au-delà de la version télé, au-delà des épisodes, bah, il connaît le truc par cœur. Tout a une logique. Il connaît ses personnages, s'ils agissent comme ça, il y a bien une raison. Je pense que c'est ça qui est vraiment fascinant dans Résistance, dans ce qu'il a présenté de Résistance.
Et puis c'est ce qu'il y a de commun, je trouve, entre lui et son demi-frère, c'est qu'ils sont vraiment amoureux de leur univers, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment capables... Là, en l'occurrence, pour Résistance, en fait, à la base, ça devait être juste 30 minutes au début du premier film, pour lancer l'histoire, et au final, il a tellement voulu développer et tellement été attaché à cette période-là qu'il a décidé d'en faire quelque chose de plus long. Enfin, si on n'est pas amoureux de son univers, amoureux de ses personnages, on fait pas ça.
De toute façon, quand on fait une série, quand on fait bien une série, c'est la base. Puisque, enfin, je vais pas vous raconter les bases, mais enfin, une série, tu sais pas combien tu auras de saisons, tu sais pas quand est-ce que ça terminera. Donc, c'est pas un film découpé en tranches, un milieu, un début, une fin. Une série, c'est un univers, c'est des personnages, et tant que ça continue, tu l'écris, mais comme tu connais ton univers, tu connais tes personnages et que c'est une logique, bah, tu peux l'écrire indéfiniment, puisque tu connais ton truc sur les bouts des doigts, ça sera forcément cohérent. T'as pas besoin de savoir que ça s'arrêtera au bout de 5, 10 ou 15 saisons. Ton univers, tu l'as, tes personnages, tu les as, bah, c'est comme dans la vie, quoi, ça continue.
Ouais, c'est pour ça aussi qu'il y a un tel attachement du public aussi, parce qu'on sent la sincérité et l'authenticité de la création, et on aime tout, quoi. On aime autant l'univers, le créateur, et c'est un ensemble, et c'est... quand on est fan, on l'est complètement.
En tant que fan, justement, t'as pas été déçu quand il a dit il y a Kaamelott Resistance, mais il y a pas d'image?
Non, parce que je savais que ce serait sous forme de nouvelles. Parce qu'il me l'avait confirmé sur Twitter, voilà, je me la pète. Non, je suis pas déçue, mais là, je suis vraiment très, très, je suis impatiente, parce qu'en tant que fan et tous les fans, on attend. Et je sais qu'il aime multiplier les projets, comme il le dit, chaque projet lui prend énormément de temps. Et là, voilà, ça commence à être du concret. On sent que ça va finir par arriver.
Il y a une super expo, donc des
j'ai
éléments.
J'ai pas eu le temps encore d'aller la voir, mais j'ai vraiment.
Il y a eu des éléments visuels qui ont été créés. J'ai vraiment l'impression qu'il fait le Seigneur des Anneaux, avec les justement
c'est ça,
les.
C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas d'image animée, il n'a rien tourné pour l'instant, il y a des images fixes. Parce qu'en effet, il a fait faire exprès pour Comic-Con des dessins de production.
Des
illustrations. Donc des croquis préparatoires, il y a des storyboards.
Des costumes.
Il y a les costumes, ça c'est les costumes de la série.
Ah d'accord, voilà. Okay.
Et il y a carrément les blasons des différents clans, puisque l'idée de Résistance, c'est l'opposition entre tous les clans de l'univers Kaamelott. Donc il a vraiment fait créer... les blasons de chaque clan, et donc chaque blason est censé représenter les clans. D'ailleurs, il avait lancé un petit jeu sur Twitter où il balançait certains blasons et il fallait comprendre de quel clan il s'agissait et pourquoi. Certaines explications sont franchement capillotractées, d'ailleurs.
Oui, on en a eu deux, on a eu droit à deux pendant la masterclass.
Les petits pédestres et les semi-croustillants.
Oui. J'avoue que j'ai une petite préférence pour les semi-croustillants, mais bon, Perceval et Caradoc, ça reste quand même Perceval et Caradoc.
Je pensais que c'était ton amour de la nourriture.
Aussi.
Et donc, l'autre événement de la journée, c'était Star Trek.
Et oui, enfin.
Donc, enfin Star Trek à la Comic-Con Paris. Ça a été difficile à imposer ou...
À imposer, non. Non. Je pense que Star Trek, c'est quand même quelque chose qui est légitime, on va dire, dans la culture geek, même si j'ai pas forcément une grande passion pour cette expression. Mais non, bah, Alain Carazé et moi-même, qui bossons avec Comic-Con pour l'événement série, évidemment, ça, on s'en est jamais caché, on est des énormes amateurs de Star Trek, même plus que ça. Mais c'est pas pour autant qu'on voulait l'imposer n'importe comment, n'importe quelle façon. Il fallait qu'il y ait une légitimité pour le faire, et c'est tombé cette année, justement, avec le documentaire avec The Captains de William Shatner, qui était produit l'année dernière aux États-Unis. Et on était tout simplement en contact avec la société de production, Blade Runner Entertainment. On leur a demandé est-ce que ça vous intéresserait de faire une avant-première française, parce qu'il est, pour l'instant, il n'a jamais été diffusé en France, il n'est pas sorti en DVD en France, donc c'est la première fois qu'on pouvait le voir. On leur a proposé, et ils ont dit oui, donc voilà, c'est aussi bête que ça.
Donc pour resituer un petit peu The Captains, c'est William Shatner qui vient rendre visite aux autres capitaines de la franchise Star Trek.
Exactement.
Et c'est lui qui tient le rôle de l'intervieweur, un rôle assez surprenant, on va dire.
Il l'avait déjà fait dans un précédent docu, il y a une dizaine d'années, alors qui n'était pas fait par lui, mais dont il était intervieweur, qui s'appelait Mind Meld, donc fusion mentale, ce que font les Vulcains. Et en fait, c'était une discussion pendant une heure entre William Shatner et Leonard Nimoy. Et c'était quasiment réconciliation directe, puisque il y avait comme des frictions entre les deux ayant chacun leur ego,
un petit peu,
c'est assez clair. Et c'était vraiment très touchant parce que c'était une discussion quasiment uncut entre les deux, et à la fin ils se tombaient dans les bras.
C'était avant l'épisode spécial de Futurama sur.
C'était bien avant, c'était quasiment une dizaine d'années. Jimmy l'avait passé d'ailleurs à l'époque.
D'accord.
Et c'était vraiment formidable. Et là, c'était un peu essayer de retrouver cet esprit-là. Mais en effet, la Shatner a les pleins pouvoirs. C'est un peu Shatner Globetrotter.
Ah oui, oui.
Il prend l'avion, il va en Angleterre pour Patrick Stewart. Il va dans la campagne pour retrouver Avery Brooks. Il va à New York pour retrouver Kate Mulgrew. Enfin, c'est assez rigolo le côté je me balade, je vais dans les conventions et tout. Et c'est clair que William Shatner fait du Shatner. Enfin, si on connaît un peu l'univers Star Trek et qu'on connaît un peu les à côté, c'est quand même le père spirituel de Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire que si vous avez la chance de posséder le DVD de Star Trek V, qui est le film qu'il a lui-même réalisé, et qui a fait un tel bide qu'il n'est même pas sorti en salle en France, dans les bonus, il y a une interview de lui à l'époque sur le tournage où il est allongé dans le parc du Yosemite, parce qu'il y a des scènes qui étaient tournées là-bas, et il philosophe sur la vie, la mort, à la Van Damme, 20 ans avant. Donc voilà, pour comprendre ce qu'est William Shatner, c'est ça.
Donc toi, Star Trek, Stira, est-ce que c'était ton truc? Toi, je sais que tu aimes un autre star. Stargate.
Ah oui.
Ça, c'est demain.
Moi, je suis une grosse fan de la franchise Stargate. J'avoue, Star Trek, série, enfin, les gamines, je me rappelle les séries. J'ai aimé le reboot fait par Abrams. J'attends le prochain, et pas seulement parce qu'il y a Cumberbatch qui joue dedans. Attention, je te vois venir, Dominique.
Non, t'as tes fixations, c'est
pas seulement, pas seulement. Mais j'avoue que je maîtrise beaucoup moins la franchise et l'univers.
Donc à la suite de la projection événementielle de The Captains, il y avait un débat. Donc avec David Mourier,
Laurence Boccolini, Pascal Pinto et Alain Malbert.
Voilà.
Donc, chacun représente une facette différente de la passion Star Trek. Pascal Pinto, qui est un journaliste spécialiste des effets spéciaux, qui a écrit un bouquin de référence sur le sujet. Laurence Boccolini, l'animatrice, mais pas seulement, scénariste, actrice et véritable passionnée de séries,
oui,
dont Star Trek.
Mais c'était la grosse surprise, en fait, quand le nom de Laurence Boccolini a été annoncé, tout le monde était surpris. C'était Laurence Boccolini, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Et c'est vrai que du coup, on ne l'a pas entendu en parler, en fait, de cet amour à Star Trek. De temps en temps, dans quelques interviews, on le voit ressortir, mais il faut quand même bien rechercher pour le savoir. Parce que c'est vrai que sur le coup, ça décontenance un petit peu.
Ouais, je pense quand même, mais c'était volontaire. On savait très bien que les gens ne s'attendaient pas à ça. Mais je pense que dès qu'elle a ouvert la bouche et dès qu'elle a dit deux mots, tout le monde s'est rendu compte qu'elle était totalement légitime sur le truc. Et voilà, quoi. Nous, on avait vraiment envie qu'elle vienne en parler. Juste avant, on disait, mais vous êtes sûrs, les gars, que j'ai ma place là? Mais t'inquiète pas, on sait que tu vas être formidable. Et voilà, je pense que... au milieu des autres invités, elle n'a pas fait tâche du tout.
Et elle traduit bien, en fait, l'esprit du fan de Star Trek. C'est que le fan de Star Trek, quelque part, sans se cacher, il est un peu caché, il est un peu à l'écart. C'est-à-dire que c'est comme il y a David Mourier qui disait quand il montre des épisodes à ses amis, il peut en montrer un, mais pas deux, mais pas trois, parce que C'est un amour très particulier. Comment dire, le rapport des fans hardcore avec cette série. C'est pas très facile à transmettre.
C'est pas facile à transmettre parce que il faut avouer que la série originale a vieilli, mais comme toute série des années 60. On regarde aujourd'hui Mission Impossible, Chapeau Melon Bottes de Cuir. Il y a un côté, voilà, c'est clairement un truc tourné dans les années 60, avec les budgets de l'époque, avec les délais de l'époque. Donc forcément, si on prend ça déjà en grippe en disant qu'est-ce que c'est que ce truc, on va pas rentrer dedans, c'est évident. Le gros problème de Star Trek, c'est que justement, en France, il n'y a pas du tout le côté nostalgie, puisque par rapport à d'autres séries, justement, comme Cosmos, Mission Impossible ou Chapeau Melon, qui, eux, sont passés à l'époque où c'était produit. Donc la première fois que c'est passé, c'était dans la norme de l'époque, donc tout de suite on s'est dit c'est bien et c'est rentré dans le patrimoine, on va dire. Ça fait partie des séries gold. Gros problème de Star Trek en France, c'est quand même la première série des années 60 et passée pour la première fois au début des années 80. Donc ça a déjà, c'était paru démodé pour les spectateurs de l'époque, qui avait déjà eu Cosmos 5 ans avant, qui avait déjà eu Star Wars. Donc c'est de là qu'est venue la grosse scission. Et en effet, pour aimer Star Trek en France, il fallait vraiment passer le cap du visuel.
Et aller au-delà de ce qui était montré à l'écran pour voir le fond.
Exactement. Mais je pense que le fait d'avoir Alain Malbert dans ce débat, donc Alain qui était impliqué dans les tout premiers fan clubs Star Trek en France, montre qu'il y avait quand même une manière, déjà même à l'époque, dans les années 80-90, de pas avoir ce secret honteux. Que c'était pas forcément uniquement ce plaisir solitaire dont on parlait des vies, et que bah voilà, même avant que la série revienne sur Jimmy, et encore plus une fois qu'elle y était avec tous les spin-offs, il y avait quand même un fandom actif en France, qui en effet était peut-être pas le plus visible, mais il existait bien.
Oui, et puis aux États-Unis, on sent vraiment un attachement même des critiques à Star Trek, qu'on n'a pas du tout en France. Nous, en France, on a tendance plutôt à trouver ce que fait HBO génial et déjà oublier ce qui était il y a 20 ans avant, mais alors ce qu'il y a 40 ans avant. Donc, c'est une série qui est très souvent méprisée en France. Moi-même, sans la mépriser, je ne l'ai jamais regardée, je ne l'ai jamais suivie.
Ouais, qui est surtout mal connue, plus que méprisée. En effet, ça, on réduit souvent ça aux oreilles pointues, au pyjama. C'est évident que c'est les trucs les plus visibles, il faut être tout à fait honnête. Mais voilà, ça garde encore un petit peu cette image d'un truc ringard, alors qu'en effet, si on passe outre le côté visuel, en termes de scénario, bah, ça n'a pas vieilli du tout. À part certains. Spock's Brain, bon d'accord. Mais non, ça reste un truc génial. Et voilà pourquoi. Voilà, tu parlais du film d'Abrahams tout à l'heure. Bah, si on fait ce remake il y a 3 ans, c'est pas pour rien, c'est parce que ça reste un truc totalement iconique et totalement respectable. Parce que là, quand même, pour de bon, sur ce film-là, ils ont complètement respecté la série d'origine. Un peu plus d'action, un peu plus de budget, mais ça reste dans l'esprit. C'est pas du tout une parodie. C'est pas Charlie's Angels, c'est pas Duke of Hazard, c'est pas le film Starsky Hutch, c'est pas Batman Jump Street.
D'ailleurs, je crois que les fans de Star Trek ont pas trop hurlé au loup, enfin, ou je me trompe.
Ça dépend lesquels, justement, pendant le débat. C'est la plus grosse scission.
Ouais, c'était un peu tranché quand même.
Ouais, quelqu'un comme Alain Malbert, lui, a pas du tout aimé le film, parce que. Il trouvait que ça privilégiait vraiment la forme à la substance. Moi, je trouve pas que le scénario soit absolument formidable dans ce film-là, faut être très honnête. Mais je trouve que sa plus grande qualité, c'est que, tout simplement, il a réussi à ressusciter la franchise. Parce qu'il faut bien se remettre en tête qu'avant la sortie de ce film-là, la franchise était carrément morte et enterrée. On sortait la série Star Trek Enterprise, qui s'est finie dans l'indifférence la plus complète, même si les deux dernières saisons étaient bien meilleures que les deux premières. Personne n'en avait plus rien à faire, faut être très honnête. Le dernier film en date, Star Trek Nemesis, avait fait un bide mais cataclysmique aux États-Unis. Il était quand même sorti exactement en même temps que le James Bond meurt un autre jour, que le Seigneur des Anneaux les deux tours et qu'un des Harry Potter, avec un budget qui était 3 fois moindre, donc il est passé complètement inaperçu, il a failli pas sortir en salle en France. Donc voilà, la franchise était morte et à peine 4 ans plus tard, J.J. Abrams fait ce film-là qui cartonne, c'est quand même le meilleur résultat au box-office aux États-Unis et en France pour un film Star Trek. Et à la fin du film, moi, je me suis dit, ça y est, j'ai envie de voir la suite. Ce qui n'était pas le cas après Nemesis et Enterprise. Donc voilà, malgré tous ces défauts, les lens flares en permanence.
Ouais, bah, c'est Abrams.
Voilà, je pense qu'on n'y échappera pas dans le prochain.
Non.
Malgré tous ces défauts, voilà, il a ce plus grand mérite qui est le principal, c'est que bah, la franchise est de retour grâce à ça.
Et justement, on va clore sur un petit débat annexe bonus. Est-ce qu'il est possible de contenter un fan de série au cinéma. Alors en l'occurrence avec l'adaptation Star Trek, donc tu nous en as parlé, donc ouais. Quelque part oui.
Et même la plupart des précédents films Star Trek,
voilà, qui restent bien l'univers. Toi, quelque part entre Star Trek et Kaamelott, il y a ça comme pont, c'est que c'était une série, c'est une série qui devient un film derrière. Est-ce que tu attends vraiment les films ou est-ce que toi tu te réclamerais plus une série? Je sais, vu ton passé, que oui, le cinéma n'a pas tes faveurs.
Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, je ne suis pas une grande cinéphile. En fait, moi, je ne suis pas du tout fan des adaptations signées des séries quand elles sont détachées de leur créateur. Pour Kaamelott, ça n'a rien à voir. C'est Alexandre Astier qui sait exactement où il va, qui sait exactement comment il va faire sa narration, comment il va construire ses arcs, etc. Donc pour moi, le fait que ce soit sur format cinéma, ça ne me pose aucun problème, parce que je sais que ça va être cohérent et que ça va très bien marcher. Après, quand c'est purement du marketing, comme Charlie's Angel, enfin toutes les adaptations, Sheriff Fais-moi peur, etc., où c'est juste jouer sur la nostalgie des gens pour créer un truc qui est souvent un scénar pourri et assez catastrophique, moi ça ne m'intéresse pas du tout, parce que moi je suis plus série que cinéma, mais au-delà de ça, autant créer des histoires originales au cinéma et voilà, que de faire de la ressucer série. Quoi. Mais bon, pour Kaamelott, moi je me fais aucun souci, je ne suis pas seulement une fangirl, je sais qu'il y arrivera très bien.
Moi, pour voir ce que tu dis, j'ai tellement de contre-exemples que j'arrive pas à avoir une règle, justement. Ouais. Je suis d'accord à la base avec toi que les films qui sont des extensions de la série faits par les mêmes équipes, comme Star Trek, c'est souvent ce qui est le plus intéressant. Mais on a quand même eu droit à X-Files 2, écrit et réalisé par Chris Carter. Voilà, hein.
Chris Carter, c'était du marketing.
Non, je pense pas. Vu comment ça a été fait, c'était pas du marketing.
Le côté, j'ai écrit une première fois le scénario et je l'ai perdu, donc je l'ai réécrit une deuxième fois très très vite, hein, sans me rappeler ce que j'ai écrit la première fois. Dans le genre marketing, c'est un peu foutage de gueule. Il y a d'autres films, pas faits par les créateurs, mais qui sont plutôt bons. Le Fugitif. Premier film, le Fugitif, est quand même plutôt pas mal. 21 Jump Street, qui est sorti il y a pas longtemps. Très, 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 très drôle. Et à la fois respectueux. Le caméo de Johnny Depp dans le film, je ne vous dis rien. Formidable.
Mais il y a aussi des films qui ne sont pas respectueux, qui restent néanmoins des bons films. Je pense Mission Impossible. Alors, pas respectueux du matériel d'origine.
Pas respectueux du tout.
Du tout.
Mission Impossible, on enlèverait le titre Mission Impossible, on pourrait dire. Ouais, c'est une bonne copie de James Bond, ça pète dans tous les sens.
C'est une franchise à part, c'est devenu une franchise à part au cinéma. En fait.
Il y a même trahison de personnage quand même.
Non seulement de personnage, mais de concept même. Il faut quand même se rappeler que la base de Mission Impossible, c'est pas uniquement le problème de l'équipe. L'équipe, on la retrouve dans le quatrième, justement.
Oui.
La base de Mission Impossible, c'est des mecs qui devaient être discrets.
C'est un peu raté.
L'idée, c'est qu'ils n'ont jamais d'armes à feu dans la série.
Non.
Ils doivent manipuler les gens pour amener les gens à révéler eux-mêmes leurs secrets.
C'est de l'arnaque, en fait.
Le film qui se rapproche le plus de Mission Impossible, c'est Inception.
Oui.
Pas seulement pour le côté équipe, on a un spécialiste de chaque truc, mais parce que la base d'Inception, c'est de pousser le fils du milliardaire à lui-même révéler les secrets, oui, en rentrant dans son esprit. C'est ça, la base de Mission Impossible. Donc, les films sont complètement en opposition avec ça. Les films ont fait tout péter, c'est James Bond-like. Plutôt bien fait.
Le premier plutôt bien fait.
Les films. Le quatrième, je trouve qu'il est plutôt assez bon aussi. Mais là, on est en complète opposition. Pas uniquement le côté équipe, mais l'esprit du truc n'y est absolument pas. Donc, j'ai beaucoup, moi, de mal avec ce côté-là. Mais en effet, voilà, il n'y a pas de règle. Le film Chapeau Melon, botte de cuir, si vous voulez, super respectueuse, c'est quand même une catastrophe monumentale. Mais voilà, on peut remonter très loin. Il y avait tous les films, pas mal de films anglais des années 60 qui en fait étaient faits parce que tout simplement les séries étaient des trucs en direct comme les Quatermass.
Ouais.
On a fait des films, pas pour capitaliser sur un succès, mais juste parce que pour revoir l'histoire que j'en ai mis à la télé, fallait en faire un film sur pellicule pour l'enregistrer. Quoi. Et ça, c'était. Voilà, les films Quatermass maintenant sont plus connus que la version télé. Même si la version télé est formidable. Donc, moi j'ai du mal à avoir une règle ou pas. Voilà. Donc, bonjour à Chris Carter et on verra bien si tu fais un troisième film X-Files. On est en 2012.
Il n'y a pas de scénario.
Voilà, logiquement, il avait dit qu'il en ferait peut-être un troisième pour 2012 pour l'Apocalypse. Il a encore 6 mois.
Mais je crois que l'Apocalypse a été retardé, c'est bon, il a 3000 ans.
Ah,
bah,
c'est
bon. Donc, c'est bon.
Bon, bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce podcast avec un villageois pour la peine.
Ce fut un plaisir comme à chaque fois.
Un grand moment.
Bonjour chez vous.
Bye bye.